en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le lundi 18 octobre 2010, l'Académie des sciences morales et politiques, réunie en séance sous la présidence de Jean Ménard, a écouté la communication d'Henri Pigeat sur le thème de la démocratie et des médias. La démocratie est en effet le thème de l'année 2010, choisi par le président Ménard, et Henri Pigeat, président du Centre de formation des journalistes, est un expert reconnu dans la sphère des médias. Entrez dans la salle des séances grâce à Canal Académie, qu'il l'a enregistré pour vous.
Mesdames, Messieurs, le président Ménard m'a proposé un sujet dont l'ampleur égale l'actualité, puisqu'il n'y a pas de jour qu'on assassine, disons-le, les médias, peut-être avec raison, au point que je ne suis pas certain, Monsieur le Président, d'épuiser le sujet dans la petite demi-heure qui m'est impartie, mais je vais essayer de vous proposer quelques remarques, peut-être, pour l'éclairer. Partons d'un constat, si vous voulez bien. La démocratie ne va pas bien, et les médias en seraient largement responsables. La cause est entendue, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Toutes les semaines, des déclarations le prouvent. Un défunt professeur au Collège de France, Pierre Bourdieu, pour être précis, en a prononcé naguère le verdict sans appel. Et celui-ci, il faut bien le dire, reste approuvé par la majorité des Français, si ce n'est des citoyens d'autres pays. Même si, dans le même temps, personne ne manque jamais de rappeler qu'il n'y a pas de démocratie sans une presse libre. Ça fait partie du jeu. Alors, si le mal ne tenait qu'à des abus de pouvoir des médias, encouragés par leur toute-puissance apparente, une réglementation plus stricte de leurs responsabilités réglerait peut-être la difficulté. À l'expérience, le remède se révèle hélas souvent pire que le mal. Trop encadré, la liberté d'expression s'affaiblit et se meurt, et avec elle la démocratie. L'ambiguïté qui caractérise le mot « média » ne simplifie pas l'analyse du problème. Venu de l'américain mass media, l'expression a dépassé son sens technique depuis longtemps pour devenir l'appellation générique de multiples modes de diffusion, écrits et audiovisuels, de moins en moins homogènes et aux définitions incertaines, d'autant plus que sous l'effet d'innovations techniques répétitives, ils ne cessent, les dix médias, de se transformer et de se recomposer. Les médias deviennent ainsi synonymes de pléthore envahissante de messages du fait de l'abolition des distances et des délais. Se développant en réseau, ils n'offrent plus seulement aujourd'hui une diffusion de nouvelles, mais une possibilité de dialogue entre des émetteurs et des récepteurs qui peuvent désormais participer à la circulation générale des informations. Ils agissent enfin principalement par des images qui, en supplantant l'écrit sur papier, transforment la nature même de l'information. Comment dès lors ne pas se demander si les médias continuent à servir le fonctionnement de la démocratie, comme la presse commença à le faire il y a 50 ans, et comme dans la profession où je sévis, on aime à le répéter presque chaque jour, sans doute pour nous consoler. Dans les mutations actuelles, la réponse à cette question ne peut être que nuancée, d'autant plus que le concept de démocratie se complique lui-même pour répondre aujourd'hui à des attentes sociales croissantes, parfois même à des attentes morales, les unes et les autres aussi exigeantes que difficiles à définir. Pour nous en tenir aux éléments essentiels de la démocratie, j'avance la proposition suivante. Les médias contribuent indubitablement à transformer ce régime dans son fonctionnement, comme dans ses fondements et son expression. Ils n'en tirent cependant guère une véritable position de pouvoir, car leur logique, désormais prioritairement technique et commerciale, érode progressivement la vieille légitimité civique qu'ils tenaient de la presse. Les médias contribuent donc à transformer la démocratie dans son fonctionnement, mais aussi dans ses fondements et dans son expression. Face aux trois pouvoirs classiques, face au poids des médias, pardon, les trois pouvoirs classiques, les pouvoirs institutionnels, peinent à sauvegarder leur efficacité et leur légitimité. Prenons l'exemple des États-Unis. Depuis de nombreux mois, la présidence, le Congrès et les partis politiques américains doivent composer avec une nouvelle force, non prévue par les pères fondateurs de la Constitution, les Tea Parties, dont la spontanéité revendiquée relève surtout, il faut bien le dire, de l'utilisation intensive de l'Internet. En France, ces jours-ci, L'intéressante participation de lycéens aux manifestations actuelles contre la réforme de retraite est de même pour une large part le produit d'une efficace utilisation du réseau qui se nomme Facebook, pour les initiés. Dans le domaine parlementaire, en 2006, une voie votée par notre Parlement pour établir un contrat de première embauche, connu sous le nom de CPE, avait été suivie d'une promulgation suspensive, véritablement surréaliste en termes constitutionnels, et ce, sous la pression de manifestations d'étudiants qui avaient toujours été minoritaires, mais toujours intensément orchestrées par les médias audiovisuels. Dans le domaine judiciaire, l'affaire Bettencourt-Woerth se développe depuis plusieurs mois dans les médias, bien avant d'accéder au prétoire, et exige des avocats des talents de communication, pour l'instant clairement plus décisifs que leurs compétences juridiques. Le débat sur les retraites illustre plus largement une évolution vers une démocratie quasi directe. À partir d'une question initialement technique et financière sur les régimes de pension, dont la discussion convenait parfaitement à la procédure parlementaire. Quelques mois de manifestations et de débats hautement médiatisés ont permis d'élargir la question à un débat national sur un nombre de problèmes quasiment infinis, j'en cite quelques-uns de façon non limitative, le caractère pénible du travail, la vie professionnelle des femmes, la protection de la maternité, l'injustice sociale, l'avenir des jeunes, et finalement, il faut bien le dire, la confiance que l'on peut accorder ou non à Monsieur le Président de la République. Le débat démocratique y gagne sans aucun doute, au seul petit inconvénient de retarder et compliquer fortement la décision sur une question dont l'absence de réponse compromet dangereusement le crédit international de nos finances publiques. Ce n'est qu'un détail. Sans révision constitutionnelle formelle, on a donc le sentiment que notre démocratie entre peu à peu dans une sorte de ce que j'oserais appeler de manifestocratie médiatique. Le premier pouvoir devient celui de la rue, associé à la caisse de résonance des médias. Le pouvoir exécutif est invité à réagir aux émotions publiques. Le pouvoir judiciaire doit dépasser l'obligation bien démodée de sérénité pour se soumettre à l'opinion immédiate. Le pouvoir législatif n'aura bientôt plus que la capacité de formaliser des décisions déjà prises, démocratiquement bien entendu. Ce transfert croissant de l'action politique vers les médias a certes l'inconvénient de sacrifier quelques garanties et équilibres qui caractérisaient jadis la démocratie, mais il donne aux citoyens le sentiment de participer directement au gouvernement, ce qui, vous l'admettrez, est une priorité peu discutable. Dans l'opinion publique, structurée par le nouveau système médiatique, le pluralisme est renforcé, puisque les minorités l'emportent désormais très souvent sur la majorité. Par l'invention de la représentativité, la démocratie moderne avait su adapter à des communautés nombreuses la vieille formule de décision politique directe de l'agora athénienne. Elle a par là même permis de synthétiser les intérêts particuliers dans une volonté nationale, entre guillemets, traduite par des élections et entretenue tant bien que mal par une opinion publique qui s'exprime non exclusivement, mais notamment et fortement par la presse. Cette opinion a longtemps été reconnue comme sage, car elle mûrissait assez lentement, au rythme de l'écrit. Tout ceci est désormais caduque. En intervenant dans le temps court, les médias audiovisuels et l'Internet donnent par leur nature même une place déterminante aux émotions et passions du jour. Ils favorisent de la sorte une opinion que le sociologue McLuhan aurait pu qualifier de chaude, même si ce n'est pas l'opinion qu'il avait appliquée sans qualificatif. Opinion construite principalement sur les réactions spontanées du public, comme en rendent d'ailleurs compte assez bien la plupart des sondages. Cette nouvelle opinion publique a des caractères novateurs. Le présent est libéré d'encombrantes entraves, comme le poids du passé et le souci de l'avenir. La continuité et la cohérence de la communauté peuvent y perdre, mais l'individu est plus libre. Donc, le système est plus démocratique. Elle est représentative d'un plus grand nombre d'intérêts divers. Les médias se sont ainsi enrichis de nouvelles sources. Les associations, entre guillemets, les ONG, entendez, organisations non gouvernementales, les experts, toujours entre guillemets. Chacune de ces sources peut être citée sans perdre de temps à justifier sa réalité ni à vérifier sa compétence. Dans le nouvel espace public numérique, c'est le savoir-faire médiatique et non la représentativité qui détermine la légitimité. L'opinion actuelle est enfin infiniment plus vive et tonique que l'ancienne. Les nouveaux médias, réseaux, blogs et web divers invente un ton de contestation naturelle et de revendication qui peu à peu s'impose aux médias traditionnels et ne manque pas de rendre plus intéressant le débat public. Cette liberté d'expression renforcée a d'autre part le mérite de constituer une opportune soupape de décompression pour les vapeurs sociales qui sont inévitables. Il ne reste donc plus qu'à trouver le bon équilibre entre la multiplicité des souverainetés individuelles et la souveraineté nationale. Le discours public se modernise lui aussi, en s'alignant sur le style et surtout sur le temps des médias, grâce à une nouvelle forme de communication politique venue de la publicité. Les gouvernants cherchent souvent à peser sur les médias. Il est juste de reconnaître qu'ils en subissent aussi nettement l'influence. À la télévision, un message doit, comme on dit, faire spectacle pour être efficace. Il doit donc être bref et simple. Le but est d'imprimer dans les esprits des formules faciles à comprendre et des images frappantes. Dramatique ou léger, ce discours ne peut s'accommoder de trop de nuances ni d'arguments excessifs qui exigeraient du public un effort trop contrasté avec les divertissements et la publicité qui constituent, comme chacun sait, l'essentiel des programmes. Cela aurait d'autre part l'inconvénient d'en exclure les masses au profit de la seule élite instruite. César, Churchill, le général de Gaulle et parmi d'autres avaient su utiliser les médias de leur temps pour porter leur discours. Aujourd'hui, tout est nouveau. C'est le discours public qui cherche l'efficacité en se mettant au service des programmes de télévision. Il n'y a plus d'obstacle, par exemple, à ce qu'un ministre participe démocratiquement à des émissions légères ou comiques. Depuis qu'un animateur de télévision s'était élégamment assis sur la table du président Mitterrand, il y a une quinzaine d'années, et si celui-ci ne renouvela jamais l'expérience, sans doute cela ne fut-il dû qu'au reste d'une vieille éducation qui était la sienne, de l'époque où les gouvernés n'étaient pas encore les égaux légitimes des gouvernants. Les médias obligent le politique à oublier son rythme, insupportablement lent, pour s'aligner sur le leur qui est celui de la vie. Il en résulte d'amusants allers-retours, des lapsus, des improvisations qui animent le débat public et captent mieux l'attention. Les anciens attachés de presse sont devenus inutiles puisqu'il n'est plus nécessaire, on n'a plus le temps surtout, d'expliquer les politiques. Ils ont été opportunément remplacés par des conseillers en communication, aptes à réagir immédiatement à toute alerte, à discerner les thèmes qui font vibrer l'air du temps, à trouver les petites phrases qui font mouche et à inventer des événements, entre guillemets, propres à mobiliser les médias. Loin de la vieille propagande de fâcheuse mémoire, la communication politique agit dans la douceur et la subtilité, voire dans l'humour. Son propos n'est pas de détruire la liberté de penser, mais d'épargner au public les fatigues de l'esprit critique et d'aider le citoyen à devenir un consommateur heureux de messages politiques. En se perfectionnant trop, ce système peut peut-être affecter la rationalité du dialogue public, voire la confiance entre gouvernés et gouvernants. Nul doute cependant que les progrès constants des sciences psychosociales ne permettent rapidement de pallier ce petit inconvénient collatéral. L'ironie de certaines des remarques qui précèdent n'a évidemment pas pour but, mesdames et messieurs, de nier la réalité des problèmes posés par l'évolution des médias, mais de poser la question de leur portée. Pour qu'un transfert d'autorité politique s'opère vers les médias, il faudrait en effet que ceci soit ou devienne un pouvoir. Or, je crois que rien n'est apparemment moins sûr. Les médias ne deviennent guère un pouvoir, car leur logique désormais prioritairement technique et commerciale érode progressivement la vieille légitimité civique qu'ils tenaient de la presse. Malgré leur omniprésence et leur puissance, les médias d'aujourd'hui ont une influence moins politique que la presse d'hier, je crois pouvoir le dire. La démuleuse des médias n'a évidemment aucun centre. Leur diversité et leurs contradictions les empêchent de constituer une véritable force collective, comme on le craint parfois. Si chaque média a une identité, elle est de moins en moins fréquemment politique. Chacun d'eux est de toute façon en train de perdre sa propre consistance sous l'effet des moteurs de recherche. Ces derniers, Google par exemple, sont supposés renvoyer à chaque lecteur ou spectateur le choix des nouvelles. En fait, ce choix résulte moins souvent de jugements personnels que du jeu d'automatisme informatique indexé principalement sur les audiences publicitaires. Ces fameux moteurs limitent donc les éventuels pouvoirs des médias en jouant un rôle plutôt de désagrégateur de publications ou de programmes de télévision, de capteur de public et de ressources, et a fortiori de destructeur de lignes politiques, quelles qu'elles soient. Le journal d'autrefois fédérait les communautés, les médias audiovisuels et l'Internet favorisent l'isolement de chaque individu, au point que celui-ci doit chercher des amis, entre guillemets, virtuels sur les réseaux sociaux, le Facebook que j'évoquais tout à l'heure. C'est un autre pouvoir perdu pour les médias classiques, sauf peut-être à retrouver sur ces réseaux de nouvelles influences politiques qui sont pour l'instant encore peu claires. Il n'est pas certain que l'image, forme d'information désormais dominante, accroisse le pouvoir des médias. Sans doute élargit-elle dans l'absolu la richesse d'expression. Son utilisation en flux ininterrompu, rapide et fragmenté laisse des impressions. Elle n'influence guère le public dans ses analyses et dans ses jugements. Elle suscite parfois la fascination, mais aussi souvent, il faut le reconnaître, l'indifférence, voire le rejet. Malgré la prophétie d'André Malraux, la télévision n'a pas mis Molière ni Victor Hugo au contact du plus grand nombre, mais seulement hissé au rang de programme culturel, la parlotte généralisée. En langage télévisuel, on dit « talk show », n'est-ce pas ? Sans pouvoir malheureusement restituer la chaleur conviviale du café du commerce. La relégation de l'écrit au second plan affaiblit elle aussi le poids politique des médias. Toute lecture invite à interpréter et à imaginer. Elle oblige au jugement, donc à la raison. Elle est occasion de dialogue avec l'auteur et avec d'autres. De cet acte intellectuel élémentaire en apparence, mais très riche en fait, la Troisième République avait su faire une formidable école de démocratie dont on peut craindre que les médias actuels ne s'éloignent. En oubliant chaque jour un peu plus le modèle de la presse écrite et en prêtant plus d'attention au commerce qu'à l'information, les médias modernes s'exposent donc de moins en moins à la critique d'être un pouvoir, ni même d'être un de ces contre-pouvoirs dont la démocratie a toujours besoin. Au mieux peuvent-ils prétendre au rang d'anti-pouvoir. Il n'est plus certain que l'information, une des bases de la citoyenneté, constitue toujours une priorité de premier rang pour la majorité des médias, et ceci est peut-être plus grave. La valeur de l'information dépend d'abord de son indépendance, et les médias n'ont jamais eu d'autre moyen que l'argent pour échapper à la tutelle du pouvoir politique. Un certain équilibre entre la vente de l'information et la publicité leur a procuré une protection relative contre une influence trop marquée des intérêts économiques. La règle d'or de la presse a ainsi longtemps été que l'argent ne peut jamais être une fin, mais doit toujours rester un moyen au service de l'information. La situation change avec la priorité donnée au commerce publicitaire. L'information générale et politique n'est plus la référence première des programmes de télévision, comme cela était le cas, par exemple, dans les grands réseaux américains des années 60. Sauf moment politique exceptionnel, le rassemblement de grandes audiences, capable de garantir les meilleures recettes publicitaires, est beaucoup plus sûrement assuré par la retransmission d'événements sportifs ou par des divertissements. La place des journaux télévisés et des magazines d'enquête s'en trouve fatalement minorée et leur influence affaiblie. L'information, lorsqu'elle existe, doit elle aussi servir l'objectif publicitaire et donc en adopter les critères, c'est-à-dire qu'elle doit devenir spectaculaire, choquante, émouvante. A-t-on remarqué, par exemple, que la compassion étant reconnue comme un des plus sûrs facteurs d'audience de la vie privée des individus, elle occupe désormais une part importante des programmes télévisuels. Par voie de conséquence, petite conséquence, les gouvernements sont ainsi tenus de manifester en toutes circonstances leur sympathie pour les victimes, toutes les victimes, car les destins individuels dans la nouvelle démocratie deviennent aussi dignes d'attention que le destin commun. La presse écrite suit malheureusement l'évolution générale des médias. Perdante dans la redistribution des audiences, elle n'a qu'assez rarement le réflexe de valoriser ses spécificités et de jouer la carte de l'information. Il est vrai à sa décharge que, en l'absence d'un lectorat prouvé et solvable pour une information exigeante, et du fait des contraintes financières, les journaux ne peuvent guère appliquer une démarche d'offre. Ils préfèrent donc, en majorité, imiter la télévision avec des nouvelles brèves, des illustrations à outrance ou une surenchère dans les annonces spectaculaires. Si l'information demeure nécessaire à la démocratie et répond aux besoins de chaque individu, elle risque ainsi de devoir chercher de nouveaux lieux pour s'exprimer, peut-être, il faut s'interroger, en dehors des médias traditionnels. Bien que souvent critiqué, le journalisme, enfin, le journalisme professionnel, demeure malgré tout une des dernières chances pour une information de qualité, au moment où, paradoxalement, la difficulté de son exercice s'accroît. L'image collective du journaliste, ou du journalisme, n'est guère positive dans l'opinion, malgré la position éminente qu'acquièrent parfois certains de ses membres. C'est pourtant cette fonction qui, au XIXe siècle, a permis de faire passer l'information fiable devant la rumeur et a rendu possible, de ce fait, la citoyenneté, donc la démocratie. Le métier de journaliste s'est fondé sur la capacité d'utiliser les outils nouveaux de transmission, traitement et stockage de l'information, mais aussi et surtout sur le respect d'une méthodologie simple, déduite de la rhétorique classique et d'une éthique professionnelle adaptée aux principes de liberté. Technicien du fait, dit-on parfois. Le journaliste ne peut avoir pour ambition de dire la vérité, même si, je vous l'accorde, il lui arrive parfois de céder à la tentation. Mais d'aider chacun à connaître les faits, aider les événements dont il s'attache à vérifier la réalité, la consistance et l'intérêt. Après avoir longtemps amélioré les outils du journalisme, les techniques de communication ne jouent plus dans le même sens. La transformation des médias oblige à redéfinir une fonction progressivement privée du temps nécessaire à ses obligations élémentaires, c'est-à-dire à la vérification des faits et des sources, à l'analyse des situations et à la réflexion avant toute présentation. Les nouvelles qualités attendues du journaliste redeviennent la capacité à réagir vite, à passer d'un sujet à l'autre, à séduire et surtout à conserver l'audience. Considéré comme trop lent, trop ennuyeux et surtout trop cher par un nombre croissant d'éditeurs et des diffuseurs, le journaliste doit aujourd'hui souvent céder la place à des animateurs, médiateurs ou amuseurs, jugés assez logiquement plus aptes à mettre en scène le spectacle de l'information. Le public condamne lui-même facilement le journalisme et doute de son utilité. Il revendique pour chacun la qualité de journaliste citoyen, concept nouveau, puisque les outils de l'Internet le permettent, et puisque, aussi, la distinction n'est plus toujours claire entre témoignage subjectif et information. En réponse aux difficultés présentes du journalisme dans les médias, des initiatives nouvelles apparaissent pour produire et accueillir l'information. On observe des équipes autonomes de journalistes, de nouvelles publications ou sites Internet spécialisés, et beaucoup d'autres encore. Sans que ces voies soient encore claires, la modernisation permanente des techniques de communication crée ainsi, de façon inattendue, un climat d'expérimentation qui n'est peut-être pas sans analogie avec celui des origines de la presse il y a un siècle et demi. Pour conclure, la profondeur de la révolution en cours dans les techniques de communication modifie indubitablement la relation entre les médias et la démocratie. Il faut souligner que la difficulté du changement est aggravée par le décalage entre des temps d'évolution différents, très court pour les techniques et les médias, assez lent pour les institutions et infiniment lent pour les mentalités. Les conditions traditionnelles de fonctionnement de la démocratie sont ainsi dépassées par la pratique des nouveaux modes de communication et de circulation de l'information. La multiplication des nouvelles n'a pas informé mieux le citoyen et n'améliore pas le fonctionnement de la démocratie. Facteur, mais aussi reflet de la société, les médias participent au phénomène, ils n'en sont toutefois qu'un élément parmi d'autres, même s'ils sont un des plus visibles. La question de fond est évidemment celle de la démocratie. Idéal jamais atteint, celle-ci ne cesse jamais d'évoluer de façon naturelle pour s'adapter aux contextes techniques et sociaux dans lesquels elle existe. Sa survie tient à ses principes, plus solides que ses formes, et à un esprit de liberté, apparemment consubstantiel à la nature humaine. Vieille d'un siècle à peine, la forme démocratique que nous connaissons n'est ni la première ni la dernière d'une longue histoire, et ce qui se passe actuellement laisse penser que nous allons assez vite vers une autre étape. Sans trop évoquer Candide, je voudrais terminer en me demandant si les perturbations qu'apportent actuellement les médias à la démocratie n'ont pas finalement un aspect positif, celui d'être une alerte, utile pour que la démocratie ne tarde pas trop à s'adapter aux nouvelles conditions du monde.
Vous venez d'entendre M. Henri Pijat, président du Centre de formation des journalistes et spécialistes de la presse et des médias, évoquer le thème de la démocratie et des médias selon le thème de l'année 2010 choisi par le président Ménard.